Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du Crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement, bonne émission.
Bonjour, je me nomme Terra Nova Rudy, dit Mehdi. J'ai écrit un livre qui retrace mon parcours étant fiché au grand banditisme, anciennement fiché S, qui s'appelle Converti, qui retrace une vie un peu chaotique. J'ai mis cette vie pas pour faire, l'apologie de quoi que ce soit du banditisme ou d'autres choses, croyances. C'est juste, c'est une expérience de vie que je raconte qui me sert dans ma nouvelle, j'ai investi d'autres segments de ma vie, à savoir la prévention de la violence des jeunes dans les RICS. J'interviens des fois avec un de mes proches qui s'appelle Youv, avec des collectivités, des mairies, des MJC. Bon, pour l'instant, je suis en train de faire ça à titre bénévole, mais je vais me structurer. Parallèlement, j'ai un deuxième livre en préparation qui va sortir, qui est justement un manuel de prévention sur la récidive avec mon avocat, Maître Taboula Beko.
On dit souvent que l'enfance détermine qui on est et les choix qu'on fait par la suite. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette affirmation ou pas du tout? Est-ce que votre enfance a déterminé le chemin que vous avez pris et les choix que vous avez fait par la suite?
Bien sûr, puisque mon enfance, moi j'ai eu un cadre un peu particulier, puisque ma mère m'a eu à 17 ans, mon père qui était commando de marine m'a eu à 20 ans, et mon grand-père qui est un ancien officier de gendarmerie et qui est le militaire le plus décoré de la guerre d'Algérie, accessoirement membre de l'OAS. C'est vérifiable pour ceux qui ont accès aux archives militaires. Il s'appelait Terra Nova Antoine, le 13 octobre 1930 à Tunis. Et il était membre, comme il était arabophone, il était membre du 2e bureau de renseignement à Constantine, sous les ordres d'un colonel Roudier. Donc moi, j'ai grandi dans la haine du musulman et la haine de l'arabe en général. Et j'avais ma grand-mère qui était corse, mon grand-père sicilien, qui ont émigré en Tunisie pour une histoire un peu compliquée de guerre de famille au 19e siècle. Et ma grand-mère, c'était une corse, mais c'était une corse un peu spéciale, à savoir c'est des orthodoxes, c'est pas vraiment le nom, mais c'est des orthodoxes, c'est des grecs qui ont émigré en Corse à Cargèse. Et le nom de famille est gravé dans le perron de la seule église orthodoxe, je dis orthodoxe, de Cargèse. Et donc j'ai une éducation très très dure, dans le catholicisme le plus dur, ça veut dire ce qu'on appelle communément le févriste. J'aime pas ce terme, ou Saint-Nicolas du Chardonnay, ça veut dire nous la messe c'était en latin. Ma grand-mère elle a cassé un nombre incalculable de cuillères en bois sur ma tête parce que je mangeais de la viande le vendredi. Et mon grand-père en fait m'a toujours façonné pour être un soldat, ça veut dire il m'a élevé dans le stoïcisme, ce qui m'a servi pour les épreuves que j'ai eues dans ma vie. Le stoïcisme le plus dur, pas celui-là original d'Épithète, mais celui-là de Marc Aurèle, ça veut dire le guerrier quoi, qui accepte tout ce qui arrive dans la vie. Ensuite, ça c'est jusqu'à l'âge de mes 5 ans, j'ai été récupéré par ma mère qui était avec un membre du grand banditisme. Dans un premier temps, on est parti en Belgique, à Bruxelles, où on habitait Avenue Louise, qui est l'équivalent des Champs-Élysées. Mes parents avaient deux boutiques, Francesco Smalto, qui est un tailleur italien, puis une boîte qui s'appelait le Panam, parce qu'il y avait beaucoup de voyous marseillais qui avaient immigré. Et en parallèle, ma tante aussi, la petite sœur de ma mère, qui a d'être d'un an, était aussi avec un gros voyou décédé depuis, qui s'appelait Gérard Schroeder, dit la grenouille. Parce qu'à chaque fois, justement, ça me fait rire, parce que vous êtes en vert, parce qu'à chaque fois qu'il rentrait en prison, il mettait tout le temps des jogging verts, donc il l'appelait la grenouille. Et ils ont été incarcérés dans une grosse affaire, puis à la maison d'arrêt de Forêt, au Forest, et mon beau-père s'est évadé. Ma mère a été libérée, puis là on a atterri dans une petite bourgade, en Seine-Saint-Denis, où il n'y avait pas... C'est rigolo qu'on voit ça, j'étais dans un endroit où j'habitais, et dans une école où il n'y avait aucun immigré, on était en Seine-Saint-Denis. L'école Juif Ferry à Vaujours. Et de là, il y a eu des arrestations quelques temps après. Mais moi, j'ai subi quelque chose qui a façonné ma vie, ma vision de la vie, entre les loups et les brebis. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus jamais, je serais plus jamais une brebis, je serais un loup, à contre-cœur, parce que je ne suis pas de nature méchante. J'ai été confié à une nourrice qui était d'origine algérienne. Et elle, de par mon patronyme, m'a identifié comme un Italien, parce que Terranova, c'est Italien ou Corse, ou ça, en tout cas c'est bassin méditerranéen. Et un jour, c'était l'Aïd, elle m'a ramené une assiette de gâteau. Elle croyait que c'était exotique, et Quand j'ai vu ces gâteaux, je lui ai dit, voilà, c'est un makrout, un zlébia, un greba, un montecao. En gros, elle m'a dit, mais comment tu connais ça, toi? J'ai dit, ben, ma grand-mère, elle en fait, elle est namostagalem. Parce qu'en fait, souvent, on identifie les pieds noirs comme riches, mais ils n'étaient pas tous riches. Mais la famille de ma grand-mère, c'était des grands propriétaires terriens. Tout mostagalem, c'était elle. Et quand elle a fait ça, je me rappellerai toujours, elle a lâché l'assiette. Et en fait, par cette simple phrase, j'avais signé mon arrêt de mort, entre guillemets. Et j'ai subi des tortures, des sévices. Ça a commencé crescendo. En gros, je me rappellerai toujours, c'était la Eid el-Kébir. On m'a forcé à suivre un mouton qui allait être égorgé, qui déféquait des petites perles. Et on m'a bloqué la tête pour que j'assiste à son immolation. Après, comme j'étais un enfant très turbulent, on me balade avec une laisse, un harnais. En gros, quand j'étais pas coopératif, on me mettait sous une douche froide et on me lacérait le dos avec une brosse métallique. Et comme j'étais dans cette logique de stoïcisme, je ne pouvais pas me plaindre. Et en fait, un jour, j'ai dit à ma mère, j'ai simulé, vous savez, j'arrivais pas à mettre un sweat. Et quand elle avait les lacérations, je lui ai dit. Et par cet acte, comme tout acte a des conséquences, c'est là que j'ai compris que je n'étais pas élevé par un couple classique, parce que mon beau-père, qui m'aimait comme son fils, qui a été abattu en 1995, a pris une arme, l'a mise à la ceinture et voulait en découdre avec cette nourrice. Ma grand-mère, ma mère l'a raisonné. Et voilà, donc après, du coup, ils ont été arrêtés quelques temps après. Et en parallèle, j'ai découvert vraiment que j'étais pas dans une famille normale par deux anecdotes. La première, c'est que j'étais en train de jouer avec des Playmobil en haut d'un escalier, en colimaçon, et le Playmobil est tombé derrière une cache. Et en fait, il y avait des caisses en bois et je croyais que c'était du champagne ou quoi, et c'était des armes. Et une autre fois, on avait une volière avec un perroquet d'Amazonie, je me suis pris les pieds dans le tapis, mon épaule a tapé dans la cage qui est sortie du socle, et dans le socle, il y avait plein de paquets, je croyais que c'était du tabac, parce que d'ailleurs, à l'époque, il y avait des anciens qui fumaient des petits cubes de tabac brun, et c'était des munitions. Et puis après, il y a eu les arrestations, donc voilà. En parallèle, j'étais un très très bon élève, puisqu'en 1987, j'étais en CM1, et puis j'étais amoureux d'une jeune fille, donc j'ai voulu faire le malin, c'était le millénaire du capé, donc j'ai potassé. J'ai rendu un devoir sur Icapé, ça m'a valu un prix par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. J'avais été à l'époque avec le maire, qui s'appelait Roger Grosmer, de Vaujour, récupérer ce prix institutrice. Après, l'année d'après, il y avait le bicentenaire de la Révolution. Et en parallèle, il y a un jour où et ça m'a valu d'être considéré à partir de ce jour-là comme, soi-disant, on définit HPI, où on devait aller visiter le château de Versailles. Et pareil, j'ai potassé quand je suis arrivé. Dans le château de Versailles, il y avait cette jeune fille, le guide commence à parler, puis il voit un enfant de 10 ans qui lui dit oui. Donc là, vous voyez, c'est un pavillon de chasse qui appartenait à Louis XIII. Là, nous sommes dans les galeries des glaces où chaque côté des miroirs font 60 degrés, 60 centimètres qui sont issus des manufactures royales de Saint-Gobain qui ont été faits par Colbert. Là, on est dans l'orangerie, on est dans la salle du jeu de pommes, ainsi de suite. Et voilà, donc après je lui dis oui, ici on est dans le salon d'Hercule, le peintre est un peintre italien qui s'est mis 12 coups d'épée parce qu'à force de rester la tête en l'air, il est devenu fou. Et là, ça fait, en fait, par cet acte qui était un acte d'amour, parce que je suis un éternel amoureux, a fait que j'ai été vu comme un élève un peu surdoué.
Donc tout ça, ça a déterminé ce qui s'est passé par la suite. Vous nous avez dit que vous avez été élevé globalement dans une éducation qui se rapprochait du catholicisme. Comment vous en êtes venu à vous convertir à l'islam? Et surtout, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui vous a manqué dans le catholicisme et que vous avez peut-être trouvé dans la religion musulmane?
Donc, je vais vous répondre là-dessus. En fait, le catholicisme, je l'ai eu toute ma vie. Ça veut dire, même à une époque où je faisais de la délinquance, le dimanche j'étais scout marin, je mettais mon bachi, j'allais à la messe. J'ai toujours été à la messe, j'ai toujours été dans des écoles catholiques, Saint-Nicolas. J'ai toujours fait mon catéchisme. Ça veut dire, j'ai jamais délaissé le catholicisme, j'ai toujours eu ma croix autour du cou. Bon, après, ma grand-mère aussi, elle a fait une vision bizarre, puisque dans mon livre, on voit une lettre où ils croyaient que j'étais exorcisé, ils ont fait une lettre au Vatican, ils leur envoyaient une médaille. Des fois, je dormais, je recevais des gouttes d'eau, elle m'aspergeait avec de l'eau bénite qui était dans des gourdes de Lourdes, ils m'ont ramené à Lourdes. Il y avait des paquets de sel qui étaient sur ma truc. Vous savez, avoir une grand-mère pied noir, c'est vous vous levez la nuit pour aller uriner à 3h du matin, vous revenez, votre lit est fait. Et vous devez manger 4 kilos de bouffe, si vous n'êtes pas gros, vous n'êtes pas en bonne santé. C'est peut-être pour ça que je fais 1m92 et 110 kilos. Donc pour en revenir, moi j'étais dans ce catholicisme et j'ai toujours été dans cette haine du musulman. Je me suis mis à fréquenter des femmes. qui étaient noires, d'origine africaine ou antillaise à l'époque. Et en fait, c'est des femmes qui c'était des gens qui habitaient dans les cités. Donc là, je me suis mis à fréquenter les cités. Et j'étais souvent dans le 20e, tout ça. Et j'avais une spécificité aussi, en fait. Je sortais avec une fille d'un quartier, je me posais dans le quartier. Et en fait, la problématique, c'est qu'en tant que Français de souche, j'étais souvent testé dans les rixes, tout ça, donc je devais me montrer plus méchant, plus féroce. Donc souvent, il y avait des histoires, ça sortait des hachoirs, tout ça, et j'ai eu cette réputation qui m'a valu du surnom du fou. Et un jour, je rencontre une femme qui est devenue la mère de mes enfants, je la vois à la Défense, et je suis avec mon ami dans les RER, et je lui dis, ouais, c'est ma femme et la mère de mes enfants. Et il m'a regardé, il dit, toi, t'as pas la lumière à tous les étages, tu connais même pas son nom de famille. Il s'avère qu'à l'époque, on avait des tatous, elle m'a rappelé, on s'est vu deux, trois fois. Et entre-temps, j'ai été incarcéré. Et en gros, un jour, je reçois une lettre, et dans cette lettre, il y a écrit « Je t'attendrai, mais je veux que tu embrasses la religion musulmane. » Et dans ma tête, je dis « Impossible. » C'était comme si, en 39-45, j'étais passé du côté des Allemands. Donc, comme un FFT qui était parti du côté des Allemands. Donc, un jour, je fais quoi ? J'ai dit, je vais voir. Donc, étant quelqu'un de parole, je vais à la bibliothèque. Et comme le Coran n'était pas mon livre destiné, si ça avait été une Bible, je l'aurais pris de manière. Donc, j'ai fait tout un système pour le voler. Je l'ai enroulé dans une veste de jogging, je l'ai remonté dans ma cellule. Et je me rappellerai toujours, je l'ai ouvert et je suis tombé sur la Sourate 19, qui est consacrée à la Vierge Marie. Et voilà, donc j'ai dit, comment la Vierge Marie ? Il y a une partie du Coran qui est consacrée à la Vierge Marie. Vous savez qu'en tant que Sicilien et Corse, la Vierge Marie, la Madone, tout ça, vous savez, elle a une importance de fou pour les Européens du Sud. Et après, j'ai lu le Coran. Et je m'aperçois d'un truc, comme je suis quelqu'un qui est très truc, je m'aperçois que le nom de Jésus, Aïssa, alayhi salam, est plus mentionné que le nom de Mohammed, le nom de prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, moi, la problématique que vous me disiez, ce que je ne comprenais pas dans Jésus, dans le catholicisme qu'on m'enseignait, c'est qu'on disait que Jésus était Dieu, fils de Dieu. Alors que Jésus, c'est un prophète qui avait été envoyé au même titre que Noé, au même titre que Moïse et que Brahim. C'est cette filiation. En fait, c'est pour moi, j'étais, en tant que catholique, j'étais dans un monothéisme. Mais quand je me signais tout ça, je voyais la Trinité. Je disais, comment le Saint-Esprit, l'ange Gabriel. Après, je voyais les déviances dans l'évangélisme, tout ça, dans le protestantisme, qui ne reconnaissait pas l'Immaculée Conception. Et je me disais, mais attendez, Jésus, il ne parlait pas. Moi, j'ai appelé la Bible en latin, je l'ai lu en français. D'ailleurs, quand je vois certains gens qui parlent de l'islam à la télé, qui sont considérés comme islamologues, ça me rappelle un passage des psaumes de David, « Abyssus abyssum invocat, l'abîme appelle l'abîme ». Et de là, je me disais, mais je suis en train de lire un texte, je suis en train d'apprendre un texte par cœur, parce que la Bible, je l'ai potassée pendant des années, les évangiles, tout ça. Et je me dis, ces paroles ne sont pas sorties de la bouche de Jésus. Et en me renseignant, je me suis dit, j'ai étudié Jésus qui était vrai, notamment par le biais des Chaldéens, qui sont les chrétiens irakiens ou turcs. Et je dis, mais Jésus parlait l'araméen à Bethléem. Et comment Jésus disait Dieu ? Il disait Allah. Et Jésus était circoncis. Jésus ne mangeait pas de porc. Jésus, comme c'est dit dans l'évangile de Matthieu, se prosternait pour prier. Je me dis, mais au final, tout ce qu'il fait, c'est rites, c'est des rites de musulmans. Si on regarde, il est plus proche d'un musulman que d'un catholique. Parce qu'après, il y a un pape qui a interdit la circoncision. Après, ils ont dévié un verset de la Bible en disant que tout ce qui rentre dans le corps ne peut être malsain, ne peut être impur, mais tout ce qui sort peut être impur. Mais ça veut dire qu'on peut manger de la chair humaine à ce moment-là. Donc c'est tout ça qui m'avait posé problème. Et en fait, l'islam, j'ai vu que le texte avait été immodifié et qu'il est immodifiable de par sa structure grammaticale. Et c'était cette relation directe avec notre Créateur. Et donc moi, étant quelqu'un, comme vous avez lu mon parcours, qui fait toujours les choses en entier, ben, la problématique, c'est où me convertir, puisque je suis prisonnier. Donc je prends attache auprès de l'aumônier, et lui, il me voit, et lui, son souci, en fait, c'est me parler d'islam de France. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'il me ramène des livres où il y a des textes. Moi, je m'occupe pas de la politique, je suis apolitique. Mais lui, ils sont dans une période où il y a de la radicalisation, post-Khaled Kelkal, le JIA, tout ça, parce que les gens ont oublié, il y a eu des attentats en 95. Donc moi, je m'aperçois d'une chose, c'est que je vois des gens qui sont en promenade, je vois qu'ils sont démunis par leurs vêtements, Je vois que, par exemple, quand il y a les cantines qui viennent, ils n'ont rien en cellule, ou quand je passe devant leurs cellules sont vides, qui dorment par terre, c'est des insectes. Et je vois que je me renseigne auprès d'eux, on me dit, ces gens-là, ils partent pour perpétuité. Et paradoxalement, quand je les vois en promenade, je vois leur visage, il est lumineux, et je vois qu'il n'y a pas de prise. Et en parallèle, j'ai des amis à moi, leur compte de détenus est plein, ils ont du cannabis. Bon, il n'y a pas trop de téléphone à l'époque, c'est, à part ceux qui étaient l'affaire du sentier, parce qu'ils s'arrangeaient avec le rabbin à l'époque. Et je vois qu'il y a des gens qui ont tout plus que nécessaire, qui ont des 15 paires de baskets, qui ont des parloirs et qui ne supportent pas la prison. Donc un jour, je prends attache auprès de ces gens. Mais moi, dans un souci d'une démarche de hôtel, je dis écoutez, parce que moi, vous avez lu dans mon parcours, parce que c'est écrit sur la couverture, le lendemain de 17 ans, j'étais à la Légion étrangère. Parce qu'entre-temps, mon beau-père est sorti de prison. Et comme j'avais été un mauvais fils avec ma mère, il m'a dit écoute, tu vas travailler, tout ça. Je dis non. Il est sorti au mois de juin 1995. J'ai dit ne sors pas. J'ai dit, laisse-moi tranquille, le 23 juillet, j'ai 17 ans, je peux m'engager à la Légion, fais-moi une autorisation parentale. Ma mère, c'est ce qu'elle m'a fait. Le 24 juillet 1995, je vais au commissariat de mon quartier, où un policier qui a été connu par la suite dans l'affaire Mera, parce qu'il était patron du RAD, et qui m'a réarrêté dans une affaire dite de terroriste par rapport à un livre que... le journaliste malhonnête Sifaoui avait écrit sur moi, Mohamed Sifaoui. C'est un mouré de Haute-Cloque, qui est un descendant de Maréchal Leclerc, parce que le vrai nom du Maréchal Leclerc était de Haute-Cloque. Et ce policier qui m'avait fait cette autorisation parentale et qui avait aussi parallèlement fait constater le décès de ma mère, puisque on n'en a pas parlé, mais on va en arriver. Ma mère, quand je rentre en prison, ma prison... Je fais une parenthèse, je sais que je suis un peu volatile. Ma première peine de prison, elle était nécessaire. Je devais aller en prison. Pourquoi ? Parce que la première utilité de la prison, et c'est un peu ce qu'il y a à la droite comme vision, c'est qu'on prend un individu dangereux et on le met hors de la société. Et il fallait que je sois hors de cette société. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai trouvé ma mère pendue, j'ai décroché son corps, et l'homme... L'homme qui m'a élevé a été abattu de 2 balles dans la tête. Et à 17 ans, je me suis retrouvé orphelin, ce qui fait que pour tous mes semblables, j'avais une haine. J'avais une haine déjà parce que j'étais parti voir la police, la brigade des mineurs. Je dis prenez-moi en charge, je leur expliquer. Et moi, je savais même pas, j'avais un sac qui était Louis Vuitton et j'avais des lunettes Cartier. Le policier m'a regardé, il m'a dit... Si tu as les moyens de te prendre tout ça, ben, va te payer une chambre d'hôtel. Donc j'ai pris acte de ce qu'il m'a dit. Et j'avais 2 options. Beaucoup diront, on a toujours le choix. La vie, elle se compose en 2 choix. Ce qu'on assume, ce qu'on regrette. Et c'était la manche ou la cagoule. Donc j'ai pris attache avec les associés de mon père, parce que mon père, que j'étais mon beau-père, c'était les membres des grands banditistes, c'est-à-dire il était encore avec des gens qui étaient proches de Jacques Messrine, qui sont morts, comme Dominique Blanchard, comme porte-avions Michel Ardouin. Donc ils avaient souvent des cafés dans le 18e, et j'allais, et je dis « Comment on a tué votre associé, vous ne le vengez pas ?» Et j'ai dit « Moi, je vais en découdre. » Donc au début, j'enquillais des équipes, au début je montais dans la voiture, je restais un peu aux abords, et la première fois où j'enquillais une banque, et je suis sorti, j'ai dit c'est ça qui est une banque. Et en fait, comme moi, j'étais dans une logique d'autodestruction, ce qu'ils appellent aux États-Unis suicide by cop, c'est-à-dire des fois j'enlevais les balles. Et je voulais me trouver nana avec la police et je voulais en terminer. Et de là, c'est jamais arrivé. Donc tel le chaton qui griffe un meuble, je me suis aguerri. Et après, je suis monté en gamme. Et comme j'étais toujours dans cette logique de nihilisme, J'allais toujours plus loin, jusqu'à faire des choses en pleine rue, jusqu'à faire des choses par exemple dans les quartiers riches, jusqu'à faire des choses à proximité d'ambassades où il y avait des policiers en faction. On a tapé des joailleries à la masse, on a fait des choses que, même des fois quand je suis dans Paris, et je ne vous parle pas très loin d'ici, je me dis mais comment on a pu faire ça? C'est comme ça m'arrivait aussi en retournant chez une de mes tantes, elle avait un figuier, je sautais en haut de ce figuier jusqu'au sol et en voyant ça, je me dis mais comment j'ai pu faire ça? Donc je rentre en prison, je reviens sur l'histoire de la prison, et qu'il fallait que je sois en prison parce que j'étais en danger. Je prends attache avec ces gens, leur notifiant que j'avais été engagé à la Légion, et que par la suite, ma génération n'était pas dégagée d'obligation militaire. J'ai fait mon service militaire à Oissel, dans le régiment du génie, 71e régiment du génie. Pour l'anecdote, c'est là où François Hollande et Michel Sapin ont fait leur régiment. C'est devenu une école de la police maintenant. Et comme j'arrivais avec cette étiquette dans mon dossier militaire, que j'avais fait un passage à la Légion et j'avais un CIGICOP, c'est-à-dire CIGICOP, ça veut dire, c'est comme un code, vous voyez, et le S, c'est le G, c'est genou, le V, c'est vue. Et en fait, par exemple, si vous boitez, on va vous mettre deux, le P, c'est psychiatre, c'est pour ça on dit P4. P1, moi j'avais 1-1-1 partout, et à l'époque, j'étais athlétique. Et donc, ils m'ont mis dans un truc péchu. Ça veut dire, notre colonel, il nous a envoyé en stage commando, je suis parti au CNAM à Briançon avec les chasseurs alpins. Je suis parti à Pintières en stage commando, je suis parti à l'Alate à Soissons, et comme je tirais bien, parce que mon grand-père m'avait mis des armes qu'il avait ramenées d'Algérie, des Sten, des Thompson, vous savez ce qu'on voit dans les films d'Al Capone, avec un chargeur droit, des P08, des Moser. Et moi j'habitais à Marseille, dans un quartier qu'on appelle la colline, la Batarelle Haute, où habitait Eli Kaku. Et en fait, il n'y avait que des Juifs, des Pieds Noirs, des Espagnols, et derrière il y avait la colline, la Garrigue, donc on allait, on tirait dans la Garrigue. Donc comme j'avais cette appointance pour les armes, très vite, j'ai été formé. Donc je reparle avec ces fameux barbus en cours de promenade et je leur dis, voilà, moi j'ai fait ça, pour pas qu'ils disent oui, parce qu'après ils pouvaient l'apprendre. Ils disent, ouais, mais il est bizarre, lui, il vient nous infiltrer, tout ça et tout. Donc après, je dis, moi, je parle pas de politique. Vous me parlez que des textes, donnez-moi. Et ils me donnaient des livres que je dévorais, que je compilais. Bon, les premiers livres, c'était Aboubakar Zezer, Ahmed Djedat, tout ça. Et après, je suis revenu aux grands savants comme Sher Albani, tout ça. Et je suis ressorti, j'avais potassé mon poids en livres que j'avais cumulé. Donc je sors et aussi il y a un détail, c'est une anecdote, c'est un détail médical, c'est qu'il fallait que je sois circoncis. Donc l'épisode de la circoncision était très très drôle parce que moi j'ai mené une guerre à la pénitentiaire pendant des années, c'est ce qui m'a permis de tenir. Donc il fallait que je me fasse circoncis. Donc un jour je vais à l'infirmerie, je vais être circoncis, il me regarde avec des yeux merlan frit. Il me dit non, t'as pas le droit. Je dis mais moi j'ai regardé dans le code de procédure pénale, même en tant que détenu, j'ai droit aux opérations comme si j'étais à l'extérieur. Donc il faut une réunion et je commence à bloquer en promenade, je commence à taper la porte, je commence à faire du bordel. Et de là, il me dit ouais, ben va voir l'aumônier, si l'aumônier est valide, c'est bon. Ben l'aumônier me fait une lettre. Donc je pars à Fresnes, puisque l'hôpital de Fresnes, il y avait l'HPF, maintenant c'est plus un hôpital, c'est une maison de repos. Il m'opère, il me circoncide. Donc voilà, le détail médical est fini. Je sors en 2000. Et moi, étant quelqu'un d'exalté, en tant que jeune converti, vous savez, quand vous êtes converti dans quoi que ce soit, vous l'êtes plus royaliste que le roi. Donc, je prends des adresses. Je dis, voilà, si tu vas approfondir ta connaissance. Donc, j'arrive à Baker Street et Finsbury Park, les mosquées londoniennes qui ont été tristement connues pour la suite. Et en fait, je me retrouve dans ce microcosme et avec des gens qui ont défrayé la chronique par la suite. Et après, il me dit, Akhi, ça veut dire frère en arabe. Il me dit, ouais, si tu veux approfondir ta religion, tu peux aller au Soudan. Je dis, ok, donc me voilà parti à Khartoum. Là, je vois que c'est pas. Moi, ce que j'ai appris, c'est certes, c'est un peu péchu dans l'armée, mais c'est la théorie, c'est pas la pratique. Donc, je vois des colonnes de fumée, je vois des véhicules, et j'arrive, et je me rappellerai toujours, il me donne un gilet pare-balles avec des auréoles, et je me demande jusqu'au jour d'aujourd'hui s'ils n'ont pas ramassé sur un cadavre, parce qu'il avait une odeur nauséabonde. Dont l'odeur hante encore mes narines, et je sens qu'on me trois uppercutes, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai pris une là et deux là dans la poitrine, et je tombe et je sens une chaleur qui monte, mais vraiment une chaleur, comme si j'avais mis ma main sur l'eau chaude, et je me rappelle juste de quelqu'un qui me dit « Shahed, Shahed », ça veut dire « témoigne », en gros, parce que pour les musulmans, ils disent que si on fait l'attestation de foi avant de mourir, on est martyr. Et après, je me relève quelque peu, je vois que je suis en perfusion et je suis sur un truc de campagne. Et moi, je ne veux pas être soigné là-bas. Je suis un peu hypochondriaque, donc je me vois septicémiste à Philocope Gorée. Donc je leur dis, comme entre-temps, je suis installé au Sénégal, où j'ai mis mes petites économies. J'ai dit, j'ai de l'argent au Sénégal. Si vous pouvez organiser le trip, le voyage jusqu'au Sénégal, ben, arrivez au Sénégal, je vous dédommage et vous me déposez qui est une clinique un peu européenne, place de l'indépendance. Et moi, j'avais déjà prévu le coup, je dirais que c'était un accident de chasse, tout ça. Donc, on fait ce périple qui est une traversée de 5000 km, on traverse 5 pays. D'ailleurs, dans le livre, il y a une erreur de frappe parce que le kilométrage ne correspond pas. Et j'arrive à Dakar où je me soigne. Et je reprends un peu forme et je vais dans la ville d'un de mes proches qui s'appelle Louga, qui est l'ancienne ville d'Abdou Diouf et du chanteur Icone. Je reprends du poil de la bête, mais maintenant, je suis très inquiet parce que je me dis, est-ce que la France et les services de police ont eu vent de cette épopée? Donc, en gros, est-ce que si je rentre sur la terre qui m'a vu naître, est-ce que je vais être emprisonné pour participation au djihad? Alors que le pire, que c'était pas ma première intention, je suis pas parti pour combattre. Donc, je reviens et je vois que y a rien qui se passe. Et je reprends ma vie quotidienne, mais entre-temps, je m'expatrie un peu à Marseille. Je m'expatrie à Marseille parce que dans ma tête, je me dis, les services antiterroristes sont très centralisés, c'est-à-dire sur Paris, il y a la SAT au 36 qui fait les barbus intramuros, il y avait la DST qui faisait au niveau national, après, ça a changé, ça s'appelait ASDAT, la DNAT, ils changent d'acronyme. Donc je me dis à Marseille, à moins qu'ils détachent une antenne que pour moi, mais je pense pas, puisque je faisais rien. Et en parallèle, je mettais des ruses, je prenais une canette de bière que je rinçais, je mettais du Minute Med, je m'étais rasé, je mettais du Coran, je secouais, j'étais un peu comme ça, lui, ils vont dire c'est un barbu, c'est le meilleur. Et de là, je suis obligé de vivre, donc je recommence mes expédients. Et je me rabats sur un soir où je vois un gars qui ouvre une porte, tu sais, les portes Hutton de distributeur, et il jette une sacoche. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails pour donner des mauvaises idées aux jeunes. Et en fait, c'est un DAP, ça veut dire c'est un technicien qui jette, et le lendemain, il y en a un autre qui vient qui recharge les billets. Donc après, j'attends la semaine d'après, je vois qu'il revient à la même heure, donc je dis ben, la semaine d'après. Je serai là, et comme je me dis, il n'est pas armé, je prends une bombe lacrymogène et je prends l'équivalent d'à peu près de 80 000 euros. Et entre-temps, je suis toujours avec ma femme qui est la mère de mes enfants. Et bon, c'est un truc sociologique un peu spécial, c'est une ethnie la plus endogame, parce que vous savez, on parle beaucoup de racisme de blancs vis-à-vis des noirs. Il y a un racisme des noirs vis-à-vis des blancs, et un racisme de noirs entre noirs, et un racisme de noirs au sein de la même ethnie par rapport aux castes, surtout chez les Soninkés et les Peuls. Et il faut savoir que la famille de ma femme, c'est les plus nobles chez les Soninkés et les Peuls, c'est l'équivalent des Windsor. Ça veut dire, sur le papier, j'avais aucune chance de me marier avec elle. Elle était déjà promise, en plus, au neveu préféré de son père. Et donc sur le papier, j'avais aucune chance. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué une famille de notables au Sénégal. Ça veut dire, parce qu'ils sont beaucoup dans les confréries soufis, donc il y a des noms qui s'appellent Aïdara, qui sont censés être des descendants du prophète. Donc moi, au culot, j'ai été, à l'époque c'était les francs, j'ai donné 30 000 francs, j'ai dit voilà, vous allez dire que j'allais votre neveu. Ils m'ont regardé comme ça, parce qu'on n'avait vraiment pas le même taux de mélanine. Donc la seule option, c'était de leur dire qu'ils m'avaient gagné à la Foire du Trône. Donc ils sont partis voir l'oncle de ma femme, parce que c'est toujours un même oncle, ils sont pleins de rites qui fait tous les mariages de la famille. En parallèle, je lui ai fait donner, puisque c'était en 2000, de Motorola, c'était le téléphone, c'était l'iPhone 15 de l'époque. Donc il était réceptif, ouais. Et puis après, je me suis déplacé en personne, et puis j'ai fait le kéké, je lui ai dit, il n'y a pas de maison à vendre dans le quartier, il m'a dit si. Je lui ai sorti un sac de sport, je lui ai dit, ben viens, on va chez le notaire, je l'ai acheté, je l'ai donné à ma femme. Je suis rentré, ma femme m'appelle toute contente, c'est bon, on est mariés. Parce qu'ils avaient fait le mariage en notre absence, on a marié à Dakar. Je dis, ben viens, on va au Sénégal, c'était l'été. Et c'était le 11 septembre 2001. Mais pendant que je regarde les vidéos, je vois des choses qui tombent. Et au début, je me dis, c'est des débris et tout ça. Et je m'aperçois que c'est des corps humains. Et l'humain reste l'humain. Et demain, c'est pas parce que vous n'êtes pas musulman que vous faites agresser dans la rue, je ne vais pas vous aider. Parce que voilà, on reste des humains. Et de là, je me remets en question. Et le paradoxe avec ce qui s'est passé, parce que moi, je suis d'une autre génération, j'ai été incarcéré pour des faits de terrorisme, c'est que nous, notre époque, dans l'islamisme, on était structurés intellectuellement. Ça veut dire qu'on avait les textes, on avait les références, et entre guillemets, il fallait être un bon croyant, ça veut dire avoir des connaissances pour être un bon combattant. Et ce qui arrive en 2015, eux, ils ont inversé la donne en disant, pour être un bon croyant, il faut être un bon combattant.
Donc, les événements de 2015 vous ont fait vous rendre compte peut-être qu'il y avait une vision différente qui était véhiculée parmi les plus jeunes que ce que vous aviez connu.
Déjà, vous voyez, c'est ça, là. Si vous me permettez, c'est mon analyse, elle n'engage que moi. Vous savez, la France ou l'Occident en général veulent régler un problème pensant régler un autre problème. Vous voyez, ils ont tué Oussama Ben Laden. Moi, je vous dis, en connaissance de cause, si Osama Ben Laden serait resté vivant, parce qu'après, je ne sais pas si vous avez suivi le problème, Al-Qaïda et Daesh se tuaient entre eux. Daesh ne serait jamais juste sorti de terre.
Donc c'est quoi le problème de la France ?
La France,
pour résumer.
Déjà, la France, c'est une bonne mère, comme j'ai dit, qui fait une différence entre ses enfants. Ça veut dire, moi, la France, elle pourrait me ostraciser. J'ai fait 14 ans de prison, j'ai fait 10 ans d'isolement, j'ai été fiché, je suis fiché au grand banditisme. Elle pourrait. Moi, ce n'est pas le cas, mais demain, si je fais une demande de logement ou si je fais une demande d'aide, ils pourraient me dire, non, monsieur, vous êtes un paria, on ne va rien vous donner. Mais ils peuvent me donner, vous voyez ce que je veux dire ? Mais la problématique, c'est que là, actuellement, la France était un pays béni pour les musulmans. Vous savez, aux années 2000, ça ne parlait pas d'attaquer la France. C'est à partir de 2004. Et vous voyez, si vous vous rappelez, c'est ça l'hypocrisie idéologique. C'est qu'en 2004, on parlait de loi contre les signes religieux. Et 20 ans après, on ne se cache plus. La loi contre le voile à l'école. Vous voyez ? Et en fait, quand on prend ça, il n'y a rien de nouveau. Rien de neuf sous le soleil. André Malraux, qui était un ministre de Charles de Gaulle a dit, et c'est public, pour vérifier sur Internet, la seule chose qui pourra fédérer les démocraties occidentales post-Seconde Guerre mondiale, c'est le combat contre les musulmans. Emmanuel Todt, qui est un sociologue, a dit, les démocraties occidentales sont agonisantes, elles sont dans une posture de combat, donc elles doivent combattre, l'ennemi c'est le musulman, mais le musulman d'HLM. Pas le musulman. Vous savez, quand les femmes voilées intégralement privatisent les boutiques aux Champs-Élysées pour dépenser des 100 000 euros en maroquinerie ou en bijoux, ça pose pas problème. C'est pour ça que quand je voyais M. Sarkozy s'égosiller en disant les barbus, les voilés, les polygames, tout ça, alors qu'au final, c'est dans sa ville à nuit où il y a la mosquée des Qataris ou des Saoudiens qui a toutes ces problématiques, c'est un peu marrant, vous voyez. Mais eux vont à la mosquée en Mercedes et en Bentley, ils ne vont pas en Passe Navigo. Donc voilà. La problématique, c'est qu'ils ont fait de la laïcité, ils ont mélangé la laïcité. Moi, je suis pour la laïcité comme vous voulez, Saint-Just, pas brillant. Ça veut dire, on l'a fait à fond. Saint-Just lui disait, une soutane dans la rue, on tue le curé. Mais c'est une laïcité à géométrie variable. C'est par exemple, je vous dis que dans chaque service ou stricticien, il y a une fatwa de Dalil Boubaker qui autorise les femmes musulmanes à avorter. C'est pas laïque. Vous voyez ? Si par exemple, si on parle souvent des revendications alimentaires, on veut manger halal. J'invite tout citoyen français à appeler l'APHP, ça veut dire n'importe quel hôpital de Paris, et à dire voilà, je veux un repas cachère. Il y a des repas cachères qui sont à disposition. Après, moi, je ne comprends pas. La France, c'est un pays multiséculaire. Qu'il y a des millénaires d'histoire, comment un morceau de voile peut faire autant polémique, alors qu'en Angleterre, il y a des policières voilées. Après, il y a aussi une idéologie rampante qui en fait, a vice à faire croire aux Français lambda que tous ces problèmes, j'ai d'ailleurs été étonné qu'ils n'ont pas dit que le Covid venait des musulmans. Par exemple, quand on parle des quick halal ou des rayons halal à Carrefour, aussi le problème des boucheries halal. Vous savez, on parle de grand remplacement. Il y a un grand remplacement, c'est vrai. Mais ce n'est pas un grand remplacement voulu. Ce n'est pas 3-4 barbus qui viennent avec un couteau, qui vont voir Robert le Trépied, qui dit, écoute, tu ne vends plus de porc. Là, ça va être halal. C'est une offre, une demande. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais dans des quartiers. Vous savez, M. Zemmour, il le dit. Moi, je l'ai vu à Marseille. J'ai habité au Rosier, j'habitais à la Méditerranée, j'habitais à Fontvert. Il n'y avait pas d'immigrés à l'époque. J'habitais au bâtiment J, à Fontvert, au Rosier. Il n'y avait pas de Noirs et d'Arabes. Il n'y avait que des pieds noirs, des Italiens, des Corses. Vous voyez ? Et en fait, c'est les bailleurs sociaux. Vous savez, des fois, ils font même à l'intérieur d'une cité, par exemple, vous allez au Val-Fouré, il y a une entrée, il n'y a que des Maliens, il y a une entrée, il n'y a que des Turcs, il y a une entrée, il n'y a que des Marocains. Donc ça, ce n'est pas le fait des choses. Il fallait organiser la mixité. Et c'est pour ça que le service militaire était bien. Il permettait de mélanger des gens de toute origine et de tous bords sociaux.
Peut-être que pour finir, on peut parler d'aujourd'hui, vu qu'on a beaucoup parlé de votre passé et de votre vie. À quoi ça ressemble aujourd'hui, votre vie ? Vous nous avez parlé que vous œuvrez beaucoup auprès des jeunes, notamment dans la prévention de la violence. Comment ça s'organise et comment ça vous est venu ?
Ma vie ressemble à celle d'un père de famille lambda qui essaie de transmettre ses valeurs à ses enfants. En fait, cette histoire de faire de la prévention pour les jeunes, c'est une psychologie pour moi, une thérapie, parce que, vous savez, de par nos actes, des fois on est idéalisé, que ce soit par les rappeurs ou par le cinéma, tout ça, alors qu'au final, c'est pas une vie que je souhaite à quelqu'un. Beaucoup d'appels très peu d'élus, c'est comme les castings qu'on voit sur les shows télé-réalité, il y a beaucoup de queues, mais au final, ils en prennent deux, trois. Comme j'ai dit dans une précédente émission, sur 100 personnes qui choisissent cette vie, il y en a 30 qui vont terminer au RSA, 30 qui vont mourir, 30 qui vont prendre des peines à deux chiffres, 10 qui vont s'en sortir bon an, mal an, en ayant des petits commerces, et voilà. Et on vend beaucoup de rêves, les histoires. On est une équipe. Quand il y a des peines qui arrivent à deux chiffres ou qu'il y a des gros sous en jeu, vous savez, malheureusement, j'ai beaucoup d'amis qui ont été tués, des membres de ma famille. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a des gens des cercles très très proches qui sont impliqués dans les histoires. Donc, l'histoire de loyauté, de principe, tout ça, ça n'existe plus.
Et vous en retirez quoi de votre vie, ma foi, très mouvementée?
Ben, ça renforce ma croyance en mon créateur en disant qu'avec tout ce que j'ai fait, parce que mon corps porte les stigmates de ma vie, j'ai des impacts de balles, d'armes blanches, tout ça, je suis un miraculé. Je suis un miraculé. Même des fois quand j'étais auditionné par les services de police qui me disaient, mais comment ça se fait que t'es encore en vie?